En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine a accueilli le 12 octobre 2012 André Laurent, professeur honoraire des universités, pour une conférence intitulée « La ville de Tours et la Touraine » dans le roman « Sténie ou les erreurs philosophiques », un roman d'Honoré de Balzac. Spécialiste de Balzac, André Laurent a publié dans la collection Bouquins, dirigée à l'époque par Robert Kopp, les premiers romans de l'écrivain français qui écrivait alors sous différents pseudonymes. Sténie ou les erreurs philosophiques est un roman épistolaire commencé en 1819 et inachevé. Mais on retrouve chez certains personnages des traits communs à ceux présents dans les romans de la comédie humaine. Ce roman de jeunesse d'Honoré de Balzac raconte l'histoire de Jacob Delriès qui quitte Tours pour rejoindre son corps militaire, laissant derrière lui Stéphanie de Formassan, une amie d'enfance dont il est amoureux et dont le diminutif est Sténie. À son retour, il se rend compte que la jeune fille a été forcée par sa famille de se marier à Monsieur de Planxey, un homme qu'il a déjà rencontré durant son voyage et dans ses rêves. Écoutons tout de suite la conférence d'André Laurent sur Canal Académie.
Je tiens à remercier M. Jean-Marie Couder d'avoir bien voulu m'inviter à l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine. L'examen de la poésie du paysage dans les trois romans de jeunesse de notre choix, c'est-à-dire Sténie, Le Centenaire et Van Cleur, est révélateur, me semble-t-il, de ce que je pourrais appeler l'imaginaire tourangeau de Balzac à ses débuts. Quelques précisions d'histoire littéraire s'imposent ici. La librairie est en crise. Dans les cabinets de lecture de Paris, à peu près 1000 à 1500, les rayons sont encombrés des romans de l'Empire. La thématique de ces romans est révolue. Brigands, cavernes, châteaux, forêts, vengeance, mystère, enfants perdus ou trouvés, orphelins ou orphelines, ne font plus recette. En même temps, le besoin de la lecture est immense. Balzac écrit lui-même « L'imagination européenne se nourrit de sensations qu'elle demande à la littérature, comme le Turc demande des rêves à l'opium. » En même temps, tenons à préciser que la cause du romantisme est loin d'être gagnée et que le genre même du roman, malgré les succès des grandes œuvres de l'abbé Prévost jusqu'à Chateaubriand, genre du roman est à réhabiliter. Le jeune Balzac s'engage dans la bataille et on a l'impression comme s'il voulait écrire des romans des deux mains, tant il voudrait explorer différents types de prose. Sténie ou les erreurs philosophiques, vraisemblablement de 1819, se trouve inscrit en premier lieu à notre programme. Il s'agit d'un roman par lettre sous l'influence de la Nouvelle-Héloïse, de René et de probablement de Paul et Virginie aussi. Sténie désigne Stéphanie, sœur de lait de Job Delériès, à l'époque où ils furent placés à Saint-Cyr en nourrice chez Vielmanon. Les erreurs philosophiques, expression qui figure dans le titre, sont en rapport avec l'idéalisme du mélancolique et du fougueux Job et avec le matérialisme de son meilleur ami, seul confident Van Herz. On voit que Balzac est en train d'élaborer l'onomastique de ses romans, mais qu'il ne se trouve pas nécessairement sur la bonne voie. Sténie a une amie, comme Job un ami. Cette amie de Sténie est une épouse soumise à son époux, un personnage cynique et carriériste. Job, qui habite Paris, qui est un homme de talent, un bon musicien, un écrivain de talent, un homme du monde, est de retour à Tours. Il tombe éperdument amoureux de Sténie, à qui il a juré une éternelle fidélité au moment où il se trouvait petit enfant en nourrice. Job assiste au mariage de Sténie, qui est promise à un personnage réputé riche, mais en réalité dépourvu de moyens, un politicien ou futur politicien carriériste. Sténie est amoureuse de Job, et Job est véritablement malade d'amour pour Sténie. Sténie, finalement, décide de se donner à lui, à Job, mais au dernier moment, elle ne peut se libérer de la terreur de l'adultère. La fin de la partie rédigée laisse prévoir un duel entre Job et le mari de Stéphanie, et le lecteur peut légitimement craindre à la fois pour la santé mentale et pour la vie même du malheureux héros. Le roman est resté inédit dans les cartons de Balzac. Redécouvert en 1950, il est publié et savamment commenté dans le tome premier des œuvres diverses de Balzac dans la bibliothèque de la Pléiade. Job est un champion des songes, sujet à un délire anti-logicien, je cite les propos mêmes de Balzac, qui raconte à son ami resté à Paris d'avoir fait un cauchemar pendant son voyage de retour en Touraine à Tours. Ce cauchemar s'avère prémonitoire puisqu'il voyage dans la diligence en compagnie du futur mari de Sténie. Dans son cauchemar, dans sa rêverie, il l'assassine sauvagement. Ce rêve est écrit, il est lu par l'ami resté à Paris. Job est prêt à croire au fonctionnement autonome du cerveau et de la capacité imaginaire, alors que son ami resté à Paris estime que sans stimuli extérieurs, donc matériels, le rêve et la rêverie ne se mettent pas en marche. Manifestement, comme le dit Proust à propos de Swann, comme certains romanciers, il avait distribué sa personnalité à deux personnages. En effet, c'est Balzac qui s'identifie au personnage de Job et en même temps qui s'intéresse à Avaners. Il dialogue avec lui-même et ce dialogue se déroule en son fort intérieur. Après ces quelques éclaircissements, ce sont les premières impressions de Job à son arrivée à Tours qui nous intéressent ici. Voici quelques extraits de ses propos à la fois enthousiastes, intimes et précis, souhaiterais-je ajouter, provoqué par un thème qui parcourt la littérature universelle, celui du retour au pays, homecoming en anglais, Heimfahrt en allemand. Enchaînons quelques citations en les commentant brièvement dans le tome de la Bibliothèque de la Pléiade. Ces propos se trouvent page 722. Je lis. « La ville est ronde et son côté septentrional a le plus bel aspect qui soit au monde, il balance celui de Naples. La Loire, extrêmement large, semble couler devant la ville dans un canal taillé par un architecte. Lorsqu'une voile arrive, on la voit de loin, blanchâtre, on la suit à travers quelques îles qui rompent la monotonie de ce vaste lac. L'œil s'y joue et leur verdure repose. On a la sensation profonde de la vue de la mer sans en avoir l'immense qui fatigue notre petitesse. L'activité du port, les cris des mariniers et la présence d'une brise fraîche rendent cette levée très agréable, car levée est le mot du pays. Elle est bordée de rangs de peupliers magnifiques dont on entend le bruissement. Ils s'étendent de chaque côté de la ville partagée par le pont et la rue qui s'est appelée successivement républicaine, impériale et royale. Voilà, le texte respire, la Loire joue un rôle important dans ce fragment. Job donne une vue panoramique de la ville de Tours. On s'est demandé quelle pouvait être la direction de son regard. Certainement, ce regard change, ce regard modifié pour pouvoir embrasser également les environs de la ville de Tours. Ainsi, Balzac parle, ou plutôt Job dans sa lettre à Avaners, parle des ruines de l'abbaye de Marmoutier, auquel il ne manque pour être admiré que d'être en Suisse. Quelque peu ironique. Enfin, la tour pointue de Rochecorbon se dessine comme un fantôme sur le paysage charmant que présentent les alentours de Vouvray. Un peu plus loin, je lis de l'autre côté, non pas de l'eau, mais du pont, le paysage contraste avec l'autre. D'abord, la colline est coupée par une large tranchée que j'ai montée bien souvent dans mon enfance et dont j'ai vu avec un plaisir naïf les arbres toujours couverts des mêmes fruits rouges. Une grande île pleine de peupliers semble s'opposer au cours majestueux du fleuve. Cette île, nous allons voir, jouera un rôle capital dans l'ensemble du texte. Ce qui nous frappe, et ce qui a frappé les Basaciens, Job, rentrant dans son pays, s'arrête, pour ainsi dire, à la porte de Tours. Il décrit la ville de Tours comme inscrite dans un rond. Pourquoi n'entre-t-il pas? Pourquoi ne cherche-t-il pas à retrouver la maison où il est né? Nous savons d'ailleurs que Balzac est né au numéro 25 de l'armée d'Italie en 1799. Parmi les Basaciens, Nicole Moser, Roland Chollet et Marie-Bénédicte Dietel se sont intéressés à ces portes de fer imaginaires qui interdisaient à Balzac, ici incarné dans Stendhal par Job, de revoir sa maison où il fut né, au numéro 25 de la rue de l'Armée d'Italie, comme je viens de le mentionner. Roland Chollet insiste tout particulièrement que Balzac, ce frustré d'amour maternel, a passé peu de temps à Tours, ayant été en nourrice de 1799 à 1803, ensuite, après un intervalle, envoyé à Vendôme, au collège des oratoriens, ou ex-oratoriens à Vendôme, de 1807 à 1813. Par la suite, il fera des séjours intermittents entre Paris et Tours. Sans vouloir ramener la création littéraire à des données autobiographiques, il me semble très important cette période du jeune Balzac passée chez la nourrice au début de sa vie. Cette période me paraît particulièrement importante. Dans quelles conditions ce prince des mots, ce seigneur du style, a-t-il acquis le langage? Comment a-t-il appris, pour ainsi dire, la réalité? Comment a-t-il appréhendé la réalité? Comment s'est-il inséré dans cette micro-société chez sa nourrice? Aussi, je ne trouve pas exagéré de dire que Balzac, à ses débuts, était un exilé de Tours. Un exilé de Tours, frustré ou privé d'amour maternel, et ce n'est que par la suite qu'il devait reconquérir, pour ainsi dire, son affection pour la Touraine. Et on connaît très bien les grands romans, les plus grands romans de la comédie humaine qu'il a écrit à Saché, dans le château de M. de Margonne, qui était l'amant de sa mère et père de son demi-frère Henri. Revoir Saint-Cyr pour Job, c'est évoquer les moments d'amour qu'il a échangés avec Stenny à leur séparation. Job, en se promenant sur le mail de Tours, reconnaît Stenny, qui en compagnie de son amie et confidente se promène en ce lieu. Stenny, c'est une scène capitale et récurrente dans l'ensemble du roman, assistera à une scène capitale et récurrente dans le roman dont le héros est Job. Dans le volume de la Bibliothèque de la Pléiade, elle se trouve décrite page 740. C'est Job qui parle ici. « Je restais stupéfait en voyant Stenny. Je ne la reconnus que sur le champ. Je cherchais en ma mémoire ses traits agrandis et embellis, tandis que l'on me criait « Qu'attendez-vous ? Ils sont au bord du fleuve, en face de l'île Simon, île à laquelle on accède de nos jours par le pont Napoléon. Donc, qu'attendez-vous ? Ces mots me rendirent, raconte Job, me rendirent à moi-même tout confus de ma nudité, parce qu'il va se dévêtir, et de la barbarie de ce retard, je m'élançais dans les flots en criant à mon tour pour me justifier, Steny, Steny, et tout en me dirigeant vers l'endroit où les deux jeunes gens étourdis avaient disparu, car effectivement les cousins de Steny se sont livrés à un jeu stupide et ils ont failli se noyer dans la Loire. Ma tête se tournait vers le rivage et j'aperçus Stéphanie défaillante. Notons l'importance de cette scène, notons également la thématique de la nudité qui sera récurrente dans l'ensemble du roman. Personnellement, j'appellerais ce bain dans le fleuve, un bain oxymore, parce que Job entre dans les flots froids et en ressort brûlant d'amour pour Steny. On pourrait dire que par la suite, les deux jeunes gens éprouvent ce que le chansonnier a défini par la maladie de l'amour. Steny va se livrer, Job va pénétrer dans la cathédrale au moment du mariage. Toute cette séquence est particulièrement sinistre. Il y a des corbeaux qui croissent autour des tours. Job s'écrie d'une manière sinistre au moment où Steny est définitivement perdu pour lui. Steny éprouve à sa manière également une profonde frustration et elle déclare, peut-être ses propos devaient être traduits, « Je lui ai donné, c'est-à-dire au mari, ce qui appartenait à Job. » Balzac se déclare semi-romantique à cette époque, nous sommes en 1819, mais c'est un physiologue, il est physiologue du désir. Il a écrit non pas la physiologie du mariage pour le moment, mais la physiologie du désir, et de ce point de vue-là, il s'engage résolument dans le romantisme. Notons une scène finale qui est particulièrement importante pour nous. Les deux jeunes gens se décident de s'unir. Ils vont se rendre à Saint-Cyr, dans l'ancienne demeure de la nourrice Vielmanon, que Vaners, l'ami complice de Job, a installé d'une manière luxueuse à leur intention. Ils se trouvent nus. Il n'y a pas une seule feuille de vigne qui les sépare. Nous allons voir ce fragment tout à l'heure. Et au dernier moment, Steny éprouve une frayeur et se refuse au désir ardent de Job. Voici cette scène. Balzac décrit d'une manière saisissante la montée du désir physique et on voit à quel point Balzac, à ses débuts, est un novateur qui ne recule pas devant un sujet délicat. Steny qui raconte la scène à son amie Augustine. Augustine, comment exprimer qu'il m'attira sur ses genoux, que réchauffé par ses baisers de feu, oubliant tout, imagine le reste. Et non, jamais tu ne pourras concevoir le nectar enchanteur qui coula dans mes veines et l'ambroisie céleste que j'ai dévorée rassemble tout ce qu'il y a d'exquis en la nature et rien n'égalera le plaisir pur qui m'assaillait. Le chagrin et le froid qui précédèrent ce délicieux moment ne firent qu'en rendre les voluptés plus vives. Nos âmes, d'abord resserrées, saillirent de leur centre, et cet épanouissement de toutes nos qualités sensibles produisit le plus charmant délire. Nos corps s'en embellirent, la satisfaction, les sourires gracieux, la gaieté douce et tendre, la joie de sa sensibilité et ses voluptueuses larmes et ses embrassements énergiques et ses transports brûlants et l'ivresse et la fureur du plaisir sourdirent tout à coup. Et, soudainement, j'allais me mettre à genoux devant lui en brûlant de mes désirs interrompus, pénétré cependant de respect et de reconnaissance pour le plus grand effort de vertu de l'homme le plus magnanime. Je lui dis d'un accent douloureux, « Job, je suis à tes genoux, je t'en supplie, ne me regarde pas avec colère, n'empoisonne pas la satisfaction de mon cœur et ne dégrade pas pour ton accueil glacé la sublimité de ta conduite. » On comprend très bien que la scène d'amour, que l'acte amoureux qui est sur le point d'être accompli est interrompu. Et Balzac décrit cette situation particulièrement délicate et belle, profondément humaine, d'une manière moderne, d'une manière sensuelle et d'une manière poétique. Dans la conférence d'aujourd'hui, nous voyons obligés de négliger en quelque manière deux autres romans annoncés. D'une part, Le Centenaire et les deux Beringeld, roman fantastique publié en 1822 sous le pseudonyme d'Horace de Saint-Aubin, dont le héros est un centenaire trois fois, espèce de vampire, espèce d'errant qui vit d'énergie vitale. La Touraine est aussi riante, la plaine entre la Loire et le Cher est aussi, je dirais amoureusement, baignée d'eau, mais la scène devient sinistre parce que ce personnage fantastique, pour sa survie, tue une jeune victime. Le personnage, ce centenaire, est accompagné par les personnes qui l'ont surpris du mont de Grammont à travers les ports de fer de Tours jusqu'à la préfecture. C'est dans ce sens que ce roman nous intéresse du point de vue de Tours et de la Touraine. Et d'autre part, pour le moment, nous mettrons également de côté le grand roman, je crois, le roman le plus mûr du jeune Balzac, intitulé Van Cleur, écrit entre 1822 et 24 et publié d'une manière anonyme en 1825, une histoire d'amour fou qui se termine par un huis clos qui se trouve derrière la cathédrale Saint-Gatien dans le cloître. À propos du cloître, bien sûr, il faut penser à ce glacis de rue qui constituait ce quartier. Il est temps de conclure et il me semble qu'il est important de constater que Balzac n'est pas devenu d'un jour à l'autre le poète paysagiste du Lys dans la vallée. S'est exilé de Tours, du moins il pouvait se considérer comme tel, devait se réapproprier la Touraine. Et qui sait, peut-être sa maîtresse maternelle, Madame de Berny, pouvait l'y aider. En même temps, Balzac devait également se réapproprier le genre même du roman. Il écrit postérieurement, de quelques années, le texte suivant. « Le genre du roman est le seul qu'ait inventé la modernité. C'est la comédie écrite, c'est un cadre où sont contenus les effets des passions, les remarques morales, la peinture des mœurs, les scènes de la vie domestique, etc., etc. Et ce genre, notre seule conquête, est anathémisé par tout le monde. » C'est la situation au moment où il écrit ces lignes. Il ajoute encore, « Et quoi, dirais-je aux détracteurs, dit Balzac, un genre neuf ouvre une carrière à l'esprit humain et vous le proscrivez. Une grande idée philosophique perd-elle de son prix pour être dans un roman? Une situation forte, une idée tragique, des tableaux réels et animés, des réflexions morales, des observations comiques que la censure répudie, une tragédie que l'on ne peut jouer, seront-elles méprisées parce que l'auteur est obligé de les mettre en quatre volumes, un 12 à 16, 20 ou 30 lignes? Voilà un fragment particulièrement intéressant parce que on se rend compte que dès cette date, dès 1822, Balzac veut renouveler le genre romanesque, imitant d'ailleurs Walter Scott, mais transposant la méthode de Walter Scott à l'époque contemporaine. Je voudrais ajouter encore qu'un ouvrage qui intéresse particulièrement notre sujet, À l'écoute du jeune Balzac, par Roland Chollet et Stéphane Vachon, vient de paraître, et cet ouvrage, publié à Montréal par Lévesque Éditeur et les presses universitaires de Vincennes, concerne d'une part les échos des romans de jeunesse de Balzac et également notre thématique de la réappropriation du roman. Revenons finalement à l'aspect autobiographique de notre sujet. Et concluons par une constatation proposée par Roland Chollet. Ce n'est pas Bianchon, ni sa mère, ni Madame Anska que Balzac mourant appellera à son secours, mais cette Touraine inventée, maternelle et bienfaisante. J'attends les effets de l'air du pays et ceux de l'air natal de Touraine, écrit-il de Francfort à Anna Mnischek, sa future belle-fille, le 16 mai 1850, quand les médecins ne peuvent déjà plus rien pour lui. Voilà la conclusion.
Canal Académie vous propose cette retransmission de la conférence d'André Laurent, un des plus grands spécialistes d'Honoré de Balzac. Intitulée « La ville de Tours et la Touraine » dans le roman « Sténie ou les erreurs philosophiques », un roman de jeunesse inachevé d'Honoré de Balzac. Cette conférence s'est tenue le 12 octobre 2012 à l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine, présidée par Jean-Marc Couder. Vous pouvez retrouver les œuvres de jeunesse d'Honoré de Balzac dans la collection Bouquins ou bien dans la Pléiade. À bientôt pour d'autres conférences sur Canal Académie. Thank you.